Christophe Tison, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir à la librairie Mola.
Oui.
Ce soir, on va parler d'un livre qui était un livre très attendu de la rentrée littéraire de cette année, qui s'appelle Journal de Elle, aux éditions de la Goutte d'Or. Un livre qui a dû bénéficier de l'accord de la Fondation Nabokov avant la publication, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Parce que, en fait, ce livre est le journal intime de Dolores Hayes, a.k.a. Lolita, donc le célèbre personnage de Nabokov. Et voici le journal de Lolita, ou journal de Elle, qui a été retrouvé. Et le voici pour nous. Première question, c'est peut-être pas la plus évidente pour vous, pas celle à laquelle on pense tout de suite. Est-ce qu'il faut avoir lu Lolita de Nabokov avant de lire votre livre ?
Moi, je dirais non. Mais bon, c'est pas la peine de l'avoir lu. C'est, pour moi, c'est quelque chose qui tient tout seul. Enfin bon, voilà. On peut le lire après, à la limite, mais c'est pas la peine. J'ai suivi pied à pied le livre de Nabokov, mais ça forme une histoire qu'on peut lire en soi, quoi. Voilà, les aventures de Lolita, justement.
Alors, et maintenant la question la plus évidente, pourquoi écrire le journal de Lolita ? Pourquoi écrire le journal d'un personnage de fiction ?
Ah, ça c'est pourquoi écrire un livre ? oui. Pourquoi ? Parce que il y a 2 ans, j'ai relu Lolita de Nabokov et je me suis aperçu que cette petite héroïne, donc cette fille qui donne son titre au roman de Nabokov quand même, ne parlait jamais. On l'entendait jamais parler dans Lolita de Nabokov. Ou on l'entend parfois râler ou réclamer un nouveau jean ou une glace au chocolat. Mais c'est tout, on ne l'entend jamais parler. Or, c'est quand même le personnage principal. C'est elle qui est l'attention qui est le centre de l'attention dans le roman de Nabokov. Mais on n'entend pas sa voix. Il y a très peu de dialogue dans le Lolita de Nabokov. Mmh. Il y a vraiment, s'il y a 10 lignes de dialogue, c'est le maximum. Et tout est vu du point de vue du personnage principal, qui est son ravisseur, qui est son kidnappeur, qui est son beau-père. Mais donc on sait tout de son beau-père, on sait tout de Humbert, puisqu'il s'appelle comme ça, mais on ne sait jamais rien de ce que pense ou de ce que ressent cette jeune fille qui est Lolita. Donc voilà, soudain je me suis dit, mais c'est dingue, j'aimerais bien savoir ce qu'elle ressent, quoi, ce qu'elle pense. Et puis et l'idée m'est venue d'écrire son journal. Au départ, je ne savais pas tout à fait comment, sous quelle forme la faire parler. Je me disais, quand même, je pourrais raconter son histoire, mais si je raconte son histoire en disant « elle ceci » ou « elle fait cela » ou « elle fit cela » ou « elle... » Enfin bon, « elle pense à ça » ou « elle... » Enfin bon, « elle songea d'un seul coup que... » Je me suis dit, ça va pas. J'avais essayé et puis je me suis dit, ça va pas. C'est pas assez personnel. Et j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit que dans ces années-là, dans les années 40 aux États-Unis, une jeune fille de 13 ans, 14, 15, 16, 17, devait tenir son journal, devait tenir un journal. Et d'un seul coup, j'ai eu cette idée du journal. Je me suis dit, elle doit tenir un journal. Et ça se trouve, chaque soir, quand ils arrivent dans un motel différent, dans leur espèce de road trip aux États-Unis, comme ça, de chevauchée folle à travers les États-Unis, dans sa chambre, une fois qu'Humbert l'a laissé tranquille, elle écrit son journal et elle écrit ce qui lui est arrivé pendant la journée. Et donc j'ai eu cette idée du journal. Voilà, c'est le journal d'une jeune américaine des années 40. C'est le journal d'un personnage de fiction, en fait. C'est ça qui est bizarre. Voilà, d'un seul coup, un personnage de fiction qui tient son journal, c'est comme si j'avais écrit le journal de Madame Bovary. Enfin, je sais pas, même. C'est d'un seul coup, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas grave, puisque, en fait, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait jamais ce qu'elle pense, et pourtant, Lolita, c'est devenu une sorte de...
Ah, c'est un personnage emblématique, quoi.
Oui, un personnage emblématique, un nom commun même. On dit c'est une Lolita. Donc voilà, cette Lolita-là qui a donné son nom à toutes les Lolitas de la Terre, je voulais savoir ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait.
J'aime beaucoup Flaubert, hein, mais je pense que le journal de Madame Bovary, ça aurait été peut-être moins pertinent, même si le livre est super.
Oui, parce qu'on on sait, dans Madame Bovary, on sait ce qu'elle ressent.
Bah oui.
Flaubert nous raconte tous ces...
Oui, qu'effectivement, dans Lolita de Nabokov, finalement, Humbert nous l'a décrit comme elle râle, elle est capricieuse. Bon, en même temps, c'est une ado, donc on se dit, bon, bah oui, quoi. Ouais. Mais effectivement, ce point de vue unilatéral sur elle, c'est dommage de ne pas avoir sa vision des faits, quoi. Parce que finalement, en lisant le journal de elle, on découvre aussi toute sa psychologie, toutes ses pensées, comment elle essaye de s'en sortir, comment elle essaye de partir...
Oui, on découvre comment elle essaye de résister, en fait, à son kidnappeur. C'est son beau-père qui la kidnappe. Sa mère est morte, son père est mort. Son beau-père va la chercher en lui disant « Voilà, je suis ton nouveau beau-père ». Il va la chercher à la sortie d'un camp de vacances. Et puis, il l'emmène d'hôtel en hôtel à travers les États-Unis. Et puis, il y a un moment où Lolita n'en peut plus de rester dans cette voiture. Elle dit « Mais je voudrais aller à l'école ». Et finalement, il finit par accepter de la mettre à l'école. Mais entre-temps, elle a essayé de fuguer une fois ou deux. Mais c'est une... au départ, c'est une petite fille. Enfin, c'est une gamine. Elle a 12 ans et demi, 13 ans au départ. Et elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de famille. Comment on fait quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de famille, pour échapper à un beau-père comme celui-ci, quoi. Et donc voilà, je raconte ça. Et je raconte ses fuites, ses fugues, en fait. Et puis aussi ses amours. Enfin bon, voilà, tout ce que n'a pas raconté Vladimir Nabokov dans Lolita.
Est-ce que... Quel est le genre de défi de ce genre d'exercice? Le journal, évidemment, c'est une forme particulière en littérature. C'est quoi le défi? Est-ce qu'on n'a pas... parce que forcément, quand on lit le texte, quand on connaît Lolita de Nabokov, la tentation de comparer, elle est là. Et comment on s'extrait de l'œuvre initiale pour créer quelque chose d'autre?
Je me suis dit que je n'allais pas écrire comme Nabokov, bien évidemment, parce que c'est impossible. Et puis c'est pas la peine. Je me suis dit que j'allais écrire comme pourrait écrire une jeune fille, une jeune américaine des années 40 de 13 ans. Et donc c'est comment, c'est une œuvre en soi. C'est pour ça que il n'y a pas de le texte de Lolita m'a jamais vraiment pesé. A jamais vraiment pesé sur moi. Je me suis dit, le texte de Lolita, c'est quelque chose, et moi, je fabrique autre chose. J'écris un journal, le journal d'une jeune fille. C'était pas évident, d'ailleurs. Au départ, c'était vraiment pas évident. C'était même très difficile de trouver sa voix, trouver la manière dont elle parle, dont elle écrit. Parce que de temps en temps, j'écrivais des choses trop enfantines. Et je me disais, non, c'est trop enfantin, ça va pas. Et puis, de temps en temps, j'écrivais quelque chose de trop construit. Et puis, je me disais, mais non, là, c'est moi qui écris. C'est moi, Christophe Tison. Elle peut pas dire ça, cette jeune fille. Elle peut pas dire un truc aussi mûr. Elle peut pas être aussi mûre. Et donc, j'ai beaucoup tâtonné avant de trouver, d'un seul coup, sa voix. Et d'un seul coup, j'ai entendu sa voix VOIX, quoi. Je me suis dit, voilà, si, c'est elle qui parle, là. D'un seul coup, quelque chose m'est apparu. Et une fois que j'ai entendu sa voix, franchement, ça a été plutôt facile à écrire. Ça a été plutôt facile à écrire. En fait, j'écris par petites scènes. C'est des scènes les unes après les autres. Et à chaque fois, c'est une situation, une action... Il lui arrive ça comme aventure, et puis il lui arrive ça encore comme aventure, et puis il lui arrive ça, et chaque jour il lui arrive quelque chose. C'est vrai que, par exemple, je me dis souvent ça, il nous arrive toujours quelque chose dans la vie. Même quand on se brosse les dents le soir, il va nous arriver un truc. Je sais pas quoi, quand on sort là dans la rue, il va nous arriver quelque chose. Il nous arrive toujours quelque chose, en fait, il arrive toujours quelque chose dans la vie. Même si c'est pas des choses extraordinaires, mais il arrive toujours quelque chose.
Justement, la forme du journal se prête bien à ce genre de choses, en fait, ou ces petits passages où elle raconte juste un élément de sa journée, et puis après des pensées plus profondes, quoi. C'est ça qui est assez intéressant, quoi.
Oui, il y a une sorte d'alternance comme ça entre ce qui lui arrive pour de vrai, c'est-à-dire, par exemple, ses premières fugues, parce qu'elle essaye de, elle essaye de fuir en fait cet homme. Et puis elle est toujours rattrapée. Enfin bon, et à un moment elle s'enfuit. Elle est pas loin de Los Angeles. Elle s'aperçoit qu'elle est pas loin de Los Angeles. Elle finit par prendre un train et puis partir chez sa tante à Los Angeles parce qu'elle sait qu'au moins elle a de la famille là-bas à Venice. Et puis elle se retrouve chez cette tante et cette tante est mariée à un Polonais, un immigré polonais. Comme il y en a beaucoup aux États-Unis, et il lui arrive pas mal d'aventures, et finalement cette tante la rejette parce que son mari s'intéresse un peu de trop près à cette Lolita, et donc elle rappelle Humbert Humbert qui revient la chercher. Enfin bon, et voilà, il lui arrive toujours des choses comme ça parce qu'elle les provoque aussi, parce que au fond, je crois que Lolita c'est une femme forte, c'est une adolescente forte quoi. Elle renonce pas à ses, elle renonce jamais à ses rêves d'enfant, à ses rêves de bonheur, de vrai bonheur, de d'amour pur par exemple. Elle veut être aimée et non pas être aimée uniquement par à cause de son corps, hein, du fait qu'elle est une nymphette, comme dit Humbert Humbert, comme dit son kidnappeur, mais pour elle-même. Et il y a deux ou trois moments dans le livre où elle trouve cet amour-là, quand même, ouais. avec un jeune homme de son âge qui s'appelle Stan. Enfin bon, voilà, des moments qu'il n'y a pas évidemment dans Lolita de Nabokov, parce que Lolita de Nabokov étant vue uniquement par les yeux de Humbert Humbert, il ne sait pas tout ça. Oui, donc moi, je rétablis la vérité en fait dans l'histoire de Lolita.
De manière plus pragmatique, on va dire. Comment on se met dans la peau d'une jeune fille des années 40 on fait beaucoup de recherches
Oui, un peu de recherche quand même. Oui, oui. Mais beaucoup, non, en fait. Ce qui compte, en fait, je ne suis pas sûr qu'une adolescente des années 40 ressente des choses très différentes d'une adolescente des années 2010. Hein. C'est une adolescente, quoi. Et même si le monde a changé, évolué, l'adolescence ou même d'autres âges, des gens de 40 ans, etc., ressentent globalement les mêmes choses. Hein, parce que le monde est toujours... les dangers sont différents, les enjeux sont différents, mais nos émotions restent les mêmes. C'est la peur, la joie... La tristesse, le bonheur, enfin bon, voilà, au fond, c'est ça, quoi. Donc non, je me glissais dans la tête d'une adolescente des années 40, c'est... je sais pas, c'est peut-être un peu aussi le talent, non ? Enfin bon, voilà.
Oui, ça doit aussi être lié à ça, sans doute.
Ouais, non, je rigole, mais bon, oui.
Ouais, moi j'avais une question aussi sur en fait. Donc, vous, Christophe Dillon, vous avez publié un texte qui s'appelle Il m'aimait,
ouais.
Qui parle de votre enfance et de votre adolescence où vous avez en fait été victime d'un prédateur sexuel qui était un ami de vos parents,
ouais.
Et de manière enfin, un peu faire le parallèle, est-ce que vous auriez écrit un tel texte? Si l'histoire de Lolita n'était pas aussi liée à la vôtre,
je sais pas, parce que j'ai écrit un livre sur mon enfance qui s'appelle Il m'aimait il y a longtemps déjà, et c'est sûr que Lolita ça résonnait en moi quand même. Il y a pas mal de moi dans cette Lolita, dans ce qu'elle peut ressentir. Parce que effectivement, elle est victime. C'est dans Lolita Nabokov, c'est une victime muette. Moi, je lui donne la parole. Mais en fait, je sais par exemple, par expérience, que quand on est manipulé par un prédateur, par un homme, et qu'on est enfant ou adolescent. On apprend très vite à manipuler l'autre. C'est-à-dire que on mûrit très vite, on apprend très vite à devenir adulte, à résister, à ne pas être totalement subjugué. Et on apprend très vite, par exemple, on apprend très vite la sexualité, on apprend très vite des tas de choses comme ça. Mais on n'apprend pas très vite l'amour. On n'apprend pas très vite des choses qui sont essentielles. Moi, ce que je voulais, par exemple, au moment où je suis sorti des griffes de mon prédateur, c'était vivre un amour pur, vivre un amour quasiment sans sexualité. Parce que la sexualité, je n'en pouvais plus. Et donc, pour moi, vivre un amour pur, c'était le sommet de la relation humaine, quoi. C'était quelque chose de très beau, quelque chose de magnifique que je voulais vivre. Et donc voilà, c'est Lolita. Il y a un peu de moi dans Lolita, dans le fait qu'elle veuille vivre vraiment un amour pur et sincère. Et voilà, j'ai mis ça chez elle, oui. J'ai mis des choses comme ça, par exemple.
Moi, j'ai lu
ça que c'est quasiment. Pardon, c'est pour ça que c'est quasiment impossible. C'est très difficile de vouloir vivre un amour pur, un amour sans trahison, un amour fidèle et sincère. C'est très difficile.
Moi, j'ai lu Il m'aimait. En fait, ce que j'avais remarqué en lisant les deux textes, c'est qu'effectivement, c'est pas comme si vous réécriviez votre enfance avec ce texte-là, pas du tout. Il y a juste une ou deux expressions qui reviennent dans les deux textes, c'est, parlons de la sexualité, la chose secrète, quoi.
Oui. Bah oui, parce qu'en fait, on sait tout de suite, en fait, quand on est... quand il y a le premier rapport sexuel avec un prédateur, on sait tout de suite qu'on est lié par une chose secrète, qu'il ne faut pas en parler, que c'est secret. Parce que ces gens-là vous rendent en quelque sorte complices. Et cette complicité fabrique une espèce de culpabilité. Les enfants se sentent toujours coupables de ce qui leur arrive. Je sais pas, je crois que c'est dans L'argent de poche de François Truffaut. Dans L'argent de poche, à la fin, François Truffaut dit les enfants se sentent toujours coupables de ce qui leur arrive. Et je crois que c'est vrai. D'un seul coup, les enfants se sentent coupables. Quand leurs parents se séparent, ils se sentent coupables. Ils se disent mais oui, mais pourquoi? Parce qu'ils m'aiment pas, ils m'aiment pas assez, c'est de ma faute. Enfin bon. Et voilà, c'est vrai que les rapports sexuels entre adultes et enfants, c'est un des grands non-dits de nos sociétés, en fait. C'est des choses qui sont très répandues, malheureusement, mais dont on parle peu. C'est un des grands non-dits. Et c'est une chose secrète, c'est vrai. C'est une chose dont on ne doit pas parler. Et on comprend tout de suite quand on est enfant qu'on ne doit pas en parler. Parce que le prédateur est un manipulateur et il vous met tout de suite dans un état de... dans un rôle de complice. Voilà, on ne doit pas en parler, tu n'en parles pas. Et puis on sait tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de pas normal.
Oui, en
plus,
c'est pas
normal. Enfin, c'est complètement fou.
Il y a la notion aussi de, si de toute façon, si je le raconte, qui va croire? Parce que c'est incroyable, en fait.
Oui, c'est incroyable. Et quand on a cédé une première fois, quand on n'a rien dit la première fois, la deuxième fois, pourquoi on dirait quelque chose? Pourquoi tu... Ou alors, on ne peut pas répondre à la question, mais pourquoi tu n'as rien dit la première fois? Et on est embarqué comme ça. Et puis, les prédateurs, en général, s'arrangent toujours pour faire un cadeau. Pour faire une sorte de cadeau ou pour vous mettre dans une situation de dominant-dominé. Donc... si on accepte le cadeau, après, on est foutu. Moi, j'acceptais des petits cadeaux comme ça. Et après, je me disais, mais ça y est, bon, je dois payer mon cadeau. Mais sur le coup, j'y pensais pas. J'étais un enfant. Je me disais, j'accepte le cadeau. C'est magnifique.
C'est une logique d'enfant, cadeau. Effectivement.
Oui.
Lolita, elle dit...
Au début.
J'ai dit merci et soudain, j'étais muette.
Oui, soudain, elle avait la bouche scellée. C'est tout au début. Tout au début, en fait... Dans le journal de Elle, elle passe par ce moment de sidération. C'est un moment de sidération. C'est-à-dire que c'est comme quand vous vous retrouvez face à un tigre, il y a un moment de sidération, avant qu'il y ait d'un seul coup la peur, et puis qu'on essaye de courir et d'échapper au tigre. Il y a un moment de peur, quoi, de sidération. Et donc, elle passe par là. C'est le tout début du livre. Et après, elle apprend à résister. Elle apprend à manipuler. Elle apprend. Elle grandit très vite, finalement. Cette fille.
Oui, il y a une progression parce qu'au début où ça arrive, elle a un jugement très très dur envers elle-même où elle dit quelquefois comme je suis conne. Elle a aussi un jugement qui est qui est pas positif sur elle. Quoi. Elle sait qu'elle est piégée, mais après elle va apprendre à manipuler finalement.
C'est difficile d'avoir de l'estime de soi quand d'un seul coup on se laisse piéger. Mais elle apprend petit à petit, à retrouver de l'estime d'elle-même.
Et pourtant, malgré ce qui lui arrive, donc évidemment ce beau-père qui l'enlève, qui la viole en fait, elle va petit à petit en fait le manipuler, petit à petit aussi s'éloigner de lui, se détacher et c'est là où moi ce que j'ai trouvé c'était le plus intéressant en fait, de vraiment plus être proche de la jeune fille. Et de quelles sont ses envies, quels sont ses rêves.
Oui.
Où elle va rencontrer Stan, par exemple, quand ils emménagent dans une nouvelle ville.
Oui, oui.
Où là, elle va tomber amoureuse. Parce que nous, dans Lolita de Nabokov, vu que Humbert parle, il ne raconte pas du tout ça. Mais là, on apprend qu'elle a des amoureux, qu'elle a une vie en dehors de nous, ce qu'on a vu dans Lolita de Nabokov, quoi.
Oui. Bah oui, forcément, elle a une vie, et cette vie, c'est la vie d'une adolescente. Donc, elle se comporte comme une adolescente, avec des coups de cœur d'adolescente, avec des coups de cœur d'adolescente, mais bizarrement, d'une adolescente qui sait tout de la sexualité. C'est ça qui est étrange. Et quand elle rencontre ce Stan-là, qui est dans la même école qu'elle... Elle rencontre ce Stan et elle se dit « Mais je vais faire l'amour peut-être pour la première fois. » Et en fait, elle ne réfléchit pas qu'avec Humbert, c'est ce qui lui est arrivé tout le temps. Et là, d'un seul coup, elle pense qu'elle va faire l'amour pour la première fois. Ce qui est vrai, puisque avant il n'y avait pas d'amour. Donc, elle se pose des tas de questions.
Oui, c'est une sexualité qu'elle désire à ce moment-là avec Stan. Vu qu'elle est amoureuse de lui, elle a envie de lui, mais... avec la beauté de l'adolescence où on veut découvrir des choses avec quelqu'un qu'on aime, quoi.
Oui, et puis avec quelque chose de plus qui est un peu plus spirituel, qui n'est pas juste de la chair.
Évidemment, il y a l'adolescence, cette période qui est assez compliquée. En plus, elle se la fait voler. Mais effectivement, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté... Parfois, elle s'énerve, puis après, elle redevient toute calme, ou bien elle l'aime, puis elle le déteste. Il y a vraiment ce côté très ambivalent de l'adolescence où elle-même ne sait pas trop comment gérer ses émotions.
Ouais, c'est vrai.
J'ai trouvé que c'était très, très, très bien fait dans le roman. Et il y a surtout, en fait, elle a une phrase à un moment qui m'a marquée où elle dit « Âge de mensonge, de paraître, âge sans pitié, de merde et de fer, ça me rend dingue, parce qu'au final... »
Ah oui, je me souvenais plus de ce passage. Ouais, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. À la fin, c'est tout ce qui reste. C'est-à-dire que quand je regarde ma vie, je me dis mais qu'est-ce qui va rester ? Bon, mes enfants, ça c'est cool. Mais mes enfants, ils ont leur vie. Ils ont une vie à eux. C'est d'autres gens. Enfin, c'est pas mes choses. C'est d'autres gens. Qui sont venus habiter chez moi à un moment. Au tout début, ils sont venus habiter chez moi. Et puis, quand je me retourne sur ma vie, je me dis, qu'est-ce qui restera finalement ? Il restera l'amour que j'ai pu donner et l'amour que j'ai reçu. Et c'est ça qui restera. C'est la seule chose tangible qui restera. Il ne restera pas mes misères, mes colères. Je ne suis pas très colérique, mais bon, il restera juste ça. C'est ça la chose la plus tangible, en fait. Le bien que j'ai pu faire et puis le bien qu'on a pu me faire et l'amour que j'ai pu recevoir et donner. Et surtout donner.
Et Lolita, dans le texte, elle a aussi un... En fait, il y a une notion de fissure qui est présente chez elle.
Oui.
Mais il y a aussi surtout elle se donne un mantra, en fait, enfin, ou en tout cas quelque chose qui résonne tout le temps dans sa tête, où c'est maintenant, le moment présent, où on sent qu'elle n'arrive même plus à penser à l'avenir, ça lui paraît complètement insensé. Et en même temps, par exemple, elle dit à plusieurs moments que les souvenirs qu'elle a de sa mère s'effacent, qu'elle ne sait plus.
Oui. C'est-à-dire que quand on vit des choses difficiles, on pense à l'avenir en se disant bon, ben voilà, il va falloir que je. Ça sera mieux plus tard. Pour l'instant, je résiste. Et puis, quand on vit des choses difficiles, il y a aussi un moment où il y a des moments de répit, il y a des petits moments de répit. Et il y a des moments où, par exemple, elle va dans la forêt, elle regarde les étoiles, elle regarde, enfin bon, bref. Et ou alors les moments où elle s'échappe, où elle part en train, par exemple, et elle regarde dehors. Et ça, c'est des moments de liberté incroyables. C'est comme tous les enfants qui, d'un seul coup, s'échappent. Les enfants qui sont contraints à rester quelque part, d'un seul coup, ils s'échappent. Et puis, d'un seul coup, le monde leur paraît merveilleux. Parce qu'ils vivent dans un placard à balais, par exemple. Et juste une rue leur paraît incroyable. Et donc, c'est vrai que Lolita se dit, non, c'est maintenant. Il faut que je vive maintenant. Il faut que je vive pour aujourd'hui.
Pourtant, elle a toujours cette notion de fissure. Elle a des vertiges, elle a des absences. Elle sait qu'elle sera marquée vie, en fait, par cet enlèvement par Humbert.
Oui.
Elle sait qu'elle va jamais finalement en sortir, mais elle essaye quand même de se dire qu'il y a peut-être un peu d'espoir, qu'elle trouvera l'amour, l'amour pur dont vous parliez tout à l'heure aussi.
Mais elle finit par s'en sortir quand même. C'est-à-dire qu'elle finit quand même par quitter ce Humbert, pour aller chez un autre type. Aller emménager dans un manoir, enfin bon, bref, dans une sorte de manoir étrange.
Un petit peu.
Ouais. Et elle finit par tout quitter. Elle se retrouve finalement à habiter dans les parcs à Los Angeles, puis par être recueillie dans un charity, c'est-à-dire un foyer d'enfants géré par le mécénat, comme il en existe aux États-Unis, et là qui est une sorte de chose très chrétien. Où elle a une espèce de révélation spirituelle à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça m'est apparu comme ça. Je n'ai pas calculé, je ne me suis pas dit « Oui, il faudrait qu'elle ait une révélation spirituelle. » C'est venu comme ça. Et voilà, elle lui échappe quand même, au bout d'un moment. Je ne sais plus quelle était la question, mais bon.
Non, c'est pas grave, c'était intéressant, donc tout va bien. Moi, je voulais vous demander, vous avez écrit... En fait, le journal se passe entre 1947 et 1952.
Ouais.
Donc le tout début, c'est quand Humbert vient la chercher à son camp de vacances, lui dit que sa mère est morte et que maintenant, il est son beau-père, ils vont partir ensemble.
Ouais.
Et après, vous découpez le livre en 5 parties, avec plusieurs dates. Surtout, en fait, il y a quand même...
5 parties qui sont 5 personnages, en fait.
Oui.
Avec lesquels elle reste suffisamment un peu longtemps.
Oui. Oui, elle est liée un peu aux hommes de sa vie, on va dire.
Oui.
Donc il y a ce... Dans Lolita de Nabokov, quand Lolita s'enfuit, on n'a que le point de vue d'Humbert qui la cherche.
Partout, ouais.
Qui se dit que le mec qui l'a prise,
ouais.
il va le tuer, il va faire quelque chose, mais il faut absolument qu'il la recherche. Mais nous, on n'a plus donc, de Lolita.
Non.
Pourquoi c'était important pour vous d'écrire la partie où elle n'est plus avec lui et elle fait ce qu'elle veut? Pourquoi ne pas juste se concentrer sur les dates de quand elle le rencontre et au moment où elle le quitte?
Parce que c'est la vie cachée de Lolita, en fait. Le moment où elle... son ravisseur, son beau-père, le moment où elle arrive à avoir suffisamment de force pour se barrer, finalement. Ça, d'un seul coup, on ne savait pas. Dans le roman de Nabokov, c'est jamais indiqué. Donc, on ne savait pas. Et puis, ça me permettait, moi, d'inventer...
Ouais, de créer.
De créer. J'étais complètement libre d'inventer toutes les aventures possibles. Et finalement, de me dire comment fait de me poser la question, c'est comment fait une jeune fille dans cette Amérique, de l'époque, pour survivre? Comment on fait quand on n'a pas de famille, pour survivre, quand on n'a pas d'argent, pas de famille? Comment on fait? Je suis une jeune fille, j'ai 14 ans, 15 ans, et je m'enfuis. Et je suis sur la côte ouest, et je fais comment pour vivre?
C'est là où on voit aussi... Humbert nous a présenté plein de choses dans Lolita Nabokov, vu qu'il est le narrateur. Mmh. Et là, Lolita nous apprend en fait plein de choses sur elle. Des scènes qu'on n'avait pas vues dans Lolita de Nabokov, où on voit vraiment que lui a sa vision totalement partiale. Mmh. Et où là, Lolita enfin rétablit la vérité et sa vérité. Quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a choisi de faire au moment de sa vie? Vous disiez, j'avais vu sur la vidéo, je crois, Mola, qu'on avait faite, que le personnage, pas vous avez échappé, mais que il y a vraiment cette notion de, elle a pris un peu, elle vous a un peu submergé.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et où il a fallu en fait, enfin, elle a pris votre voix.
Oui, j'ai bien aimé vivre avec elle. J'ai bien aimé vivre avec cette jeune fille, cette adolescente. Je l'ai aimée, je l'ai choyée, je l'ai bercée, je l'ai consolée. C'est vrai. J'ai bien aimé, d'un seul coup voir le monde par ses yeux. C'était marrant. Dans un processus créatif, c'est ça qui est étrange, c'est que quand vous écrivez un roman, un livre, tout ce que vous vivez en dehors... d'un seul coup vous nourrit et je sais pas, moi il m'arrivait des choses dans ma vie quotidienne où je lisais quelque chose, où on me disait quelque chose, où j'avais telle ou telle émotion, et puis d'un seul coup ça se retrouvait dans le roman, mais avec le filtre de cette jeune fille, et c'est comme si c'était elle qui d'un seul coup vivait ça. Et je me suis laissé complètement habiter par ce petit personnage qui finalement m'a ému, quoi, et qui m'a fait vivre pendant des mois et des mois. Ouais, c'était très c'était très agréable parce que elle a une grande humanité, parce que elle vit des choses intenses, très fortes, des choses que ne devrait pas vivre une adolescente. Et en même temps, elle garde son indépendance d'esprit. Elle est assez clairvoyante sur elle-même. Elle est assez clairvoyante sur le monde aussi. Elle en arrive à refuser, en fait... Parce qu'elle vit des choses justement assez fortes, elle en arrive à refuser le rôle qu'on destinait aux femmes à cette époque. Parce que dans les années 40, aux États-Unis, en France, en Europe, une femme, c'était fait pour être mariée. Et puis voilà, ça n'avait aucune indépendance. Peut-être le droit de vote, et encore, et puis pas de chéquier, pas de compte en banque, voilà. Et puis surtout, souvent, pas d'études. Donc, voilà. Donc, comment... En fait, cette Lolita, d'un seul coup, s'aperçoit de sa condition féminine. Mais c'est justement parce que elle a été bousculée, elle a été bousculée très tôt, et d'un seul coup, elle s'aperçoit que voilà, les cours de maintien, par exemple, qu'on lui donne à l'école, parce qu'avant il y avait à cette époque-là aux États-Unis, mais je suppose que ça existait en France aussi, je me suis pas renseigné, mais il y avait des cours de maintien. Il y a des cours de maintien, comment on ravaude de tel collant, comment on reçoit à la maison, quel couvert on met à droite, à gauche, etc. Est-ce qu'il faut parler, intervenir dans les conversations des hommes quand ils discutent ensemble? Non, il ne faut pas gêner les hommes quand ils discutent ensemble. Il faut leur proposer un petit snack, mais bon, c'est tout. Bon, voilà. Et elle, d'un seul coup, est assez clairvoyante parce que elle a un homme à la maison avec elle. Elle a ce Humbert là, et elle vit des choses pas communes, quoi. Et donc voilà, elle est assez clairvoyante envers cette société, dont les modèles, par exemple, de cette société-là américaine, c'était John Wayne, c'était des hommes, quoi. Voilà, c'était principalement des hommes. Les femmes étaient c'était Marilyn, des espèces de femmes objets. Mais moi, oui, j'adore Marilyn. Hein. J'adore Marilyn Monroe. Je trouve que c'est un personnage fabuleux. Mais
oui, mais elle est très consciente de ça et de, enfin, l'hypersexualisation qu'elle a vécue très jeune.
Oui.
D'être contrainte de vivre avec cet homme-là. Effectivement, elle se rend vite compte que, en fait, elle a beau avoir des cours de maintien où on lui dit il faut faire ça pour faire plaisir à son mari, mais elle est
très
noire aussi.
Elle est finalement. Mais c'est ce qui m'est arrivé aussi. Elle est finalement pas prise dans le cycle infernal, dans l'éducation infernale de cette époque.
Elle peut même plus rêver en fait de ça, alors que quand elle est au Charity, qu'elle a les cours,
ouais,
elle juge ses camarades qui, en disant moi je peux même pas penser à ça en fait. Elle voit bien qu'elle n'a pas de pensée sur l'avenir, alors que ses petites camarades, elles pensent quand j'aurai un mari, quand j'aurai une maison, quand j'aurai un jardin, etc. Mmh. Quoi. Et elles se coupent complètement de ce monde-là, quoi.
Oui, parce que elle est en survie, mais elle est en survie dans tous les sens. Elle est en survie et puis elle est en survie, c'est-à-dire qu'elle vit une vie plus intense que les autres.
Elle s'en détache. C'est comme si elle survolait sa propre vie, effectivement.
Oui,
quoi.
Oui, mais sa vie est forcément plus intense, et forcément plus forte. Quoi. Mmh. Vous voulez que je vous lise un petit passage ? Je vais lire un petit passage.
J'ai un peu comme des pages parfois, mais.
Oh non.
Je sais, c'est pas bien.
Alors, c'est un moment où elle est. C'est pour. c'est ce que je disais à propos de cette. C'est ce qu'on disait à propos de cette clairvoyance qu'elle a. Elle dit. Je sais que je suis commune, comme si j'avais sur moi un vieux manteau légué par une lignée d'ancêtres aussi communs que moi. Je suis banale et l'Amérique est pleine de filles comme moi. Humbert, me le dit parfois quand il se fâche et veut me blesser, mais pour le théâtre et pour me maquiller et séduire et plaire et duper, je suis douée. Je le sais, je vais travailler dur et lire et étudier, je vais m'appliquer, recommencer 100 fois, 1000 s'il le faut. C'est difficile d'arracher ce vieux manteau, mais j'y arriverai. M'a montré la voie, si je peux dire. C'est ce que je pense, en tout cas. Tu es commune, mais ton destin ne l'est pas. Voilà. Elle se dit qu'elle est commune. Et finalement, son destin n'est pas commune, n'est pas commun. C'est l'histoire d'une jeune fille un peu commune, comme il en existe des milliers, qui, d'un seul coup, est projetée dans un monde où il lui faut se surpasser, résister. Enfin bon, voilà. C'est l'histoire d'une jeune fille ordinaire à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire.
Il y a à la fin, il y a quand même sa vengeance.
Oui, c'est vrai.
Il y a quand même ça. Enfin, en fait,
elle se venge par procuration. Ouais.
À plusieurs moments, en fait, quand Claire en rit de ça, quand elle le menace, elle lui dit « Homme va te tuer ». Il en rit, mais finalement, elle se venge par procuration, effectivement. Mmh. Point où elle s'en fiche, en fait.
Ouais.
Ça la soulage pas vraiment.
Non, ça la soulage pas vraiment. Bah, c'est toujours pareil. Est-ce que par exemple, ça soulage les victimes, quelqu'un qui a perdu un enfant? Est-ce que ça le soulage vraiment de voir la compagnie de pharmaceutique qui a fait que son enfant est perdu condamné? Oui, ça soulage un peu, mais ça lui rend pas son enfant. Enfin bon, c'est une reconnaissance de l'injustice, mais ça ne soulage pas vraiment. C'est la peine est toujours là. Enfin, je pense
oui,
ça.
Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est Il y a une mini compensation, mais finalement le mal est fait et
faut accepter
et vivre avec, quoi.
Oui, mais puis c'est un moment où d'un seul coup elle a trouvé quelque chose dans sa vie qui.
Oui, aussi, elle a un certain équilibre à ce moment-là.
Oui, elle a trouvé à la fin, elle trouve enfin quelque chose à quoi s'accrocher, enfin quelque chose, enfin quelqu'un qui lui veut du bien, enfin bon voilà, elle est enceinte d'ailleurs. Je dévoile rien parce qu'en fait dans le roman de Nabokov, quand il la retrouve à la fin, elle est enceinte. Donc elle est enceinte à 17 ans.
Oui, il y a pas trop de spoil là.
Ouais, non. Donc voilà, mais donc elle se dit que sans doute c'est bien de vivre et peut-être que son enfant aura une existence plus paisible que la sienne. Mais c'est tout. Enfin bon voilà, c'est quelque chose.
Oui, puis il y a ça, mais elle a toujours ce truc de maintenant et elle trouve l'équilibre. Mais elle a conscience que l'équipe peut vite bouger. Et en même temps, elle a beaucoup de force quand elle dit ça, quoi.
Oui, mais à la fin, elle est quand même dans une espèce de plénitude.
Ce qu'on n'imaginait pas au début. J'aime bien. Et c'est vrai, ouais. Non, mais ouais. J'ai bien aimé, moi aussi, ce côté. C'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais
j'en suis sorti. Ouais.
Ouais, voilà.
Ouais, j'en suis sorti vivante, ouais. Ouais.
Déjà, ouais.
Ouais. Mais bon. Pas ouais, enfin bon, je dévoile pas la fin.
Ce serait pas un gros spoil non plus, mais
oui.
Et après, de manière beaucoup plus générale, est-ce que en tant qu'auteur, quand on publie le journal de elle, donc Lolita, est-ce qu'on a peur de choquer, de l'entreprise que c'est en fait d'écrire Lolita? Est-ce qu'on a peur?
Oui. Oui, on a peur, oui, mais bon, c'est pas grave parce que quand on écrit, on pense pas à ce qu'on va ressentir plus tard, quoi. On écrit et on écrit dans la solitude et on vit avec un personnage ou avec plusieurs personnages et on pense pas aux conséquences. Et ce qui est vrai, c'est que de temps en temps, je me disais bon, j'ai écrit ça, mais est-ce que c'est trop cru ou pas assez cru? Enfin bon. Je me disais peut-être que ça va choquer, mais c'est pas grave. C'est comme ça que cette jeune Lolita décrirait ce qui lui est arrivé. Et finalement, c'est pas choquant, c'est la vérité, c'est la réalité. Donc c'est pas très grave. Non. Mais oui, on a peur, ouais, on a peur un peu, ouais. Pas plus que ça non plus, hein. Pas comme si je me retrouvais face à un tigre.
Oui, ça va. Oui, c'est surtout même dans Lolita de Nabokov, finalement, il n'y a pas tant de scènes de sexe que ça. Ou bien en tout cas, c'est pas aussi. C'est beaucoup plus cru la manière dont elle le raconte que lui ne le raconte.
Oui, bien sûr, ouais. Non, mais c'est un texte des années 50. C'est très suggéré dans Lolita de Nabokov. Les scènes de sexe, elles sont très suggérées, quoique de temps en temps. Enfin bon, mais en revanche, il y a du sexe dans tout Lolita. C'est-à-dire dans tout Lolita transpire la sexualité dans Nabokov. Tandis que là, il doit y avoir 3 ou 4 scènes qui sont crues. Mais enfin, ce qui est pas beaucoup par rapport au nombre de scènes qu'il y a, mais effectivement, comme elle le raconte, elle le confie à son journal, elle peut bien confier des choses vraies, quoi. Si elle faisait des ellipses ou de la poésie, on comprendrait pas. Ce serait pas vraiment un journal, quoi.
Et puis l'ensemble du livre. Ne reflète pas, en fait, enfin, n'est pas comme Lolita de Nabokov où, oui, effectivement, la sexualité est présente partout.
Oui.
Là, le journal, à certains moments, elle va raconter certaines sexes, mais effectivement, il n'y a pas cette notion de tout est lié à la sexualité, quoi.
Tout n'est pas sexuel, non.
Ce qui est bien, ce qui est aussi cohérent avec son adolescence.
Mais
et
oui,
son âge.
Et puis elle se bat aussi contre ça. Face à un kidnappeur.
Oui, effectivement, oui. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir parlé de ce livre.
C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous.